Donc, après cet exposé de Maurice sur les causes et les raisons et le contexte historique, politique et social qui a provoqué le déplacement et l'exil des Colombiens, Nelson va nous compléter ou nous apporter son regard de Colombien.
Merci beaucoup. Je remercie Fall pour cet espace et cette rencontre avec vous tous. Je remercie aussi Maurice Lemoine. Ce que je voudrais dire, c'est que nous faisons partie d'une équipe de recherche extérieure.
Nous faisons partie d'une équipe de recherche qui a démarré ses activités en 1995 autour du processus de paix, du parcours de vers la paix. Et ensuite, nous nous sommes transformés en une organisation qui travaillait depuis l'exil dans l'investigation autour du conflit et de l'exil colombien.
Les chercheurs sont des paysans, des défenseurs des droits humains et des Afro-Américains, des indigènes, des jeunes aussi.
Nous utilisons une méthode d'investigation qui est bien particulière et qui s'appelle IAP. Investigation ou enquête, action participative et populaire. C'est-à-dire que nous nous réunissons avec les personnes qui ont été mentionnées, avec le type de population qui a été mentionné, dans des assemblées. Et pendant ces assemblées, ce que nous faisons, c'est que nous reconstruisons les événements qui ont eu lieu dans le but de construire notre propre version et de faire de la recherche de cette façon-là. Notre façon de travailler se base sur une théorie qui est la théorie de la complexité. Le tout et la partie. Nous essayons de croiser plusieurs disciplines dans notre manière d'investiguer parce que nous croyons qu'il n'est pas possible de faire autrement. C'est vraiment un travail d'investigation qui est atypique, comme je venais de le dire. Je vais vous donner un exemple assez concret d'un type d'investigation qui se déroule. Il y avait un paysan qui habitait dans un village au bord du fleuve Magdalena, qui est un des plus grands fleuves en Colombie, et dans lequel étaient jetés les cadavres des morts du conflit, et qui les ramassait de la rivière avec l'aide de toute la communauté qui était la sienne, de son village. Et une fois que les cadavres étaient sortis du fleuve, ils étaient photographiés, et ensuite, dans un petit agenda, dans un petit cahier, on notait leur apparence, leur couleur de cheveux, de façon à qu'il reste un registre de ces morts-là, même s'ils n'avaient pas été identifiés. C'est pour ça que je dis que notre manière de faire de l'investigation, de faire de la recherche, est un système atypique. Ça, c'était l'introduction à ma prise de parole. Je dois vous dire qu'à cette table, je ne me sens pas seule, mais il manque beaucoup de copains et de camarades de lutte qui, par exemple, Hector Abad, Jesús María, qui était un syndicaliste, qui sont soit disparus, soit qui ont dû se déplacer, qui sont morts ou qui ont dû s'exiler. Pour juste vous dire les conditions dans lesquelles nous travaillons, moi j'ai souffert, j'étais victime de trois attentats à trois moments différents de ma vie. En 1989, on m'a tiré dessus, j'ai encore une balle qui est dans mon dos et je vais la garder toute ma vie. En 1998, on a mis carrément une bombe dans le bâtiment où je me trouvais et on a pratiquement détruit un bâtiment de 4 étages. Et finalement, en 2000, en pleine Medellín, 35 paramilitaires nous ont enfermés, nous ont attaqués. Et on a essayé d'appeler la police, mais au final, quand les paramilitaires se sont montrés, eh ben, c'était la police, en fait. Je viens ici présenter un document qui pourrait être peut-être le scénario d'un film, même si ce n'est pas un film pour l'instant. C'est qu'avec le même groupe de personnes avec lesquelles nous avons travaillé autour de l'idée et de l'œuvre, Colombie, une nation dans l'exil, nous avons décidé qu'il fallait passer à l'attaque, à l'offensive, et nous avons inventé ce terme de désexil, pour redéfinir notre posture et pour changer le fusil d'épaule. Je dois dire que la Colombie est un pays dans lequel toutes les inégalités sont présentes. On est le deuxième pays avec le plus d'inégalités en Amérique latine, le 11e au niveau mondial. L'impunité règne souveraine, c'est le 94% des cas de procès qui sont en cours, qui se terminent par une impunité totale. de 100 investigations ouvertes, seulement 6 sont réellement résolues. Je dois dire qu'une chose qui est très importante pour une équipe de recherche, c'est la rigueur dans la méthode de recherche. Tous les documents qu'on élabore sont très importants. Toutes les preuves qu'on trouve sont très importantes et gardées de façon très rigoureuse. Les témoignages que l'on récolte, c'est la même chose. L'État, en fait, qui devrait être le garant de cette enquête et de ces preuves qui existent dans le pays, ne le fait pas. Nous avons donc décidé de nous substituer à l'État pour prendre cette tâche dans nos mains. La Colombie a une population globale de 51 200 000 habitants. Il y a eu en Colombie 7 700 000 déplacés internes, qui n'ont pas donc franchi une frontière internationale en se déplaçant. Il y a 9 800 000 Colombiens qui se trouvent hors de Colombie. De ces 9 800 000, seulement 1 800 000 sont considérés réellement comme des réfugiés politiques. Donc, si on fait les calculs après ces chiffres que j'ai donnés, 14% des Colombiens n'habitent pas dans le lieu où la personne est née. Le 18% n'habite pas le pays tout court. On se questionnait sur les raisons de ce mouvement, de cette absence, de ce départ. Et on s'est dit que c'était réellement une stratégie de terreur qui est perpétrée par l'État et qui rejoint les écoles de pensée, de stratégie sécuritaire d'Amérique latine globalement et d'Amérique dont Maurice mentionnait les tyrans et les aboutissants tout à l'heure. On a connu dans notre continent ce qu'on a appelé la doctrine de la sécurité nationale, qui avait comme phrase de base, comme théorie de base, l'idée que l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Cette stratégie qui a été mise en place en Colombie, elle avait un instrument pour être efficace. C'était le contrôle et la domination de communautés par la violence. Donc, violence comme instrument de contrôle du territoire. Pourquoi il était donc nécessaire à l'État de contrôler par la violence le territoire? Bien sûr, dans le territoire, il y avait les communautés ancestrales qui vivaient dans le pays depuis toujours. Il fallait donc les contrôler. Mais le territoire, dans le sol et dans le sous-sol, est tellement riche en ressources. Il y a tout. Et il y a des ressources hydriques, des ressources biologiques, des ressources en faune, en flore, en minéraux. Tout cela, c'était bien sûr convoité par les grandes entreprises internationales et multinationales. Et le gouvernement colombien a donc eu toujours l'attrait à les contrôler par tous les moyens. Les structures répressives du gouvernement colombien ont mis en place dans mon pays, c'était une structuration et une déstructuration systématique des communautés dans le but de les détruire et de s'approprier de leurs ressources. Si j'élimine l'ami de ton ennemi, ça c'est une stratégie politique qui fonctionne partout. Mais qui dans mon pays a été utilisée vraiment depuis des décennies. Par exemple, comment on peut imaginer qu'un parti politique entier soit anéanti, soit massacré? Donc, structuré et déstructuré, c'est ça la logique. Et je veux parler, même avant de vous dire c'est quoi le désexil, je voudrais vous dire que moi je conçois l'exil comme un processus. Un processus exilique. L'exil, c'est un processus. Et donc, ça veut dire qu'il y a ceux qui exilent, les agents de l'exil, et ceux qui sont exilés. Ce processus de structuration et déstructuration, le processus d'exil, a eu comme effet le déplacement et l'exil de milliers et des milliers de leaders de notre pays, qu'ils soient indigènes, afrodescendants, syndicalistes, paysans, jeunes, étudiants, femmes. Tous ces groupes-là et les leaders de ces groupes ont dû fuir le pays. Mais cependant, les structures sociales arrivent et continuent en Colombie à se restructurer de façon permanente. On n'a pas réussi à détruire les liens communautaires. En 2016, 68 groupes de FARC, 68 fronts de FARC, des guérillas de FARC, ont déposé les armes. Et ces territoires qui ont été libérés ou qui ont été évacués des guérillas présentes, quelques mois après, ont été occupés par ce que j'appelle l'armée de l'extrême droite, qui sont les groupes paramilitaires. Pour moi, c'est très difficile de vous expliquer la situation de mon pays en si peu de temps à cette table. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Peut-être que je peux vous expliquer quelques trouvailles que nous avons faites, quelques réussites que nous avons eues dans notre recherche. Je veux dire qu'il faut souligner que l'exil des Colombiens et des Colombiennes a des responsables politiques et que ces responsables politiques agissent selon une stratégie de terreur, de dépouillement, de mort et de déplacement. C'est l'exil aujourd'hui pour les Colombiens et les Colombiennes est une chaîne de faits criminels qui ont des liens directs avec le gouvernement en place, du moins celui d'avant 2022. La violence, le pouvoir de la violence, par contre, a été aussi celui de créer une véritable nation dans l'exil. Et ce que nous essayons d'obtenir, c'est une possibilité de processer juridiquement, d'avoir des procès, des vrais procès, contre ceux qui sont responsables de tous les crimes desquels nous avons été témoins. Chacun et chacune de nous, exilés, avons perdu des membres de notre famille, nos leaders et nos camarades dans les luttes. On veut pouvoir dénoncer la stratégie de destruction du gouvernement colombien et aussi dénoncer la stratégie d'impunité totale qui est celle de notre pays. Nous attendons toujours les résultats de la juridiction spéciale pour la paix qui devait nous donner un système de justice ou du moins un instrument pour nous les exilés de dénoncer ce que nous avions connu. Nous sommes des milliers et peut-être des centaines de milliers à avoir dû quitter le pays juste avec ce que nous portions, juste avec les habits que nous portions. On a tout perdu, mais par contre la mémoire, ça, on ne l'a pas perdu. Et on va l'utiliser pour faire des procès, pour dénoncer ce que nous avons connu. Je vais vous montrer un document. Donc en regardant cette carte que je mets à l'écran, pour moi, c'est évident, je dois vous expliquer que la stratégie des paramilitaires a un impact violent sur tout l'État, sur toute la surface de l'État, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a, on a dit, 1 450 000 exilés. Et d'où viennent ces exilés colombiens? En fait, ils viennent des 95% des départements de la Colombie, pratiquement de partout. Et si on fait une analyse des départements dans lesquels il y a le plus grand nombre de déplacés, c'est exactement les endroits où on trouve les plus gros projets de développement, les méga projets de développement. Je vous fais un exemple très concret dans le département de Antioquia, dans l'endroit qui s'appelle Ituango, on a voulu installer la plus grande du monde, la plus grande barrage hydroélectrique qui s'appelait la Hidroeléctrica de Pescadero, c'était la plus grande de l'humanité entière. Pour ce faire, les groupes paramilitaires ont anéanti 18 groupes de guerrières, de guérillas, 18 fronts guérillas, pardon, soit-elles FARC, EPL ou d'autres. En fait, pour 3100 paysans sont morts dans ce projet. Mais ce projet, qu'est-ce que c'était? C'était un projet qui allait faire augmenter la température de cette région de 1, 2 ou 3 degrés, qui allait et qui a d'ailleurs retenu et anéanti un des fleuves les plus importants de Colombie, que c'est le fleuve Cauca, qui est aujourd'hui mort. On a tué une partie de la force de la Colombie. Tous les guerriers sont morts, et le projet, et aussi les paysans, et ce projet ne marche pas. Pourquoi ce projet ne marche pas? Parce que la communauté locale ne collabore pas avec ça, parce que la communauté est toujours restée là, et parce que jamais on ne pourra les évincer, jamais on pourra les déplacer, ou pas complètement, ni avec les balles, ni avec rien d'autre. Il est vrai quand même qu'une partie de cette population s'est déplacée par elle-même, s'est exilée, Et surtout, elles sont allées s'installer proche de la frontière avec le Venezuela. Mais ces gens-là, par exemple, se sont déplacés sans demander de l'aide, sans demander de papier, par leur propre compte, en fait. Et donc, ils sont établis, mais ils n'ont aucune aide, aucune reconnaissance de leur statut de réfugié. Et voilà ce que j'appelle un processus d'élimination systémique qui ne s'arrête jamais. Dans cette carte beaucoup plus complète, vous pouvez voir les endroits qui ont été récupérés par les paramilitaires et occupés par les paramilitaires qui étaient des territoires anciennement occupés par les groupes de guérilla. Je vais vous parler d'un projet, d'un grand projet qui a été mené en Colombie qui s'appelle le meilleur coin d'Amérique, le meilleur recoin d'Amérique, qui a été initié par l'ancien président colombien Álvaro Uribe Vélez en 1998. L'idée, c'était celle de déplacer l'économie colombienne vers le Pacifique. Parce que pour, à l'avenir 2030, toute l'économie colombienne se base plutôt sur le Pacifique. Qu'est-ce que donc était l'idée centrale de ce projet? C'était celle de créer un canal interocéanique alternatif à celui de Panama, qui est complètement séché aujourd'hui. Donc on allait unir l'Atlantique et le Pacifique entre les deux municipalités de Puerto Nuqui et Puerto Necucli, qui se trouvent donc l'un sur le Pacifique et l'autre sur l'Atlantique. Mais en réalité, le projet de ce canal était complètement dépourvu de logique, puisque ça se basait sur l'unification ou la confluence d'un tout petit ruisseau avec un énorme fleuve, qui était quelque chose qui, en termes d'ingénierie, résultait assez, s'avérait être assez improbable à faire. Et ça, c'était l'un des méga-projets qui ont été implémentés par cette stratégie de l'occupation territoriale en Colombie. C'est vraiment très complexe pour moi de tout vous dire ce que j'avais à vous dire dans ce temps. Le temps m'a échappé, mais j'ai tenu à terminer mon exposé en me souvenant d'un camarade de lutte qui s'appelait Jesús Peña, ou Chucho Peña, qui était un poète de l'Université nationale en Colombie, qui collaborait avec notre groupe de recherche en facilitateur de dynamique des assemblées. Et il a été assassiné lorsqu'on se déplaçait justement pour aller dans la ville de Puerto Boyacá pour une de nos réunions. Il a été arrêté à un checkpoint, un barrage par les paramilitaires. Il a disparu. Et quand on l'a retrouvé, il avait été jeté dans la rue, complètement nu. Il avait une espèce de pancarte sur lui qui disait pour qu'il arrête d'écrire ce qu'il voit. Et on lui avait également amputé les mains et enlevé les yeux. Et avant de mourir, il a écrit « On est amoureux de la vie et on en veut à la mort. À la vie, on va tout donner, à la mort, on ne donnera jamais rien ».